Bonjour à toutes et à tous, vous êtes avec les Neveux de René, une émission consacrée à la découverte des textes de la philosophie et des auteurs de la philosophie. Aujourd'hui, nous sommes avec Anthony Feneuil, maître de conférence en théologie et philosophie à l'Université de Lorraine, faculté de Metz, et avec Sylvain Contasso-Vivier et moi-même, Nazim Fattès.
Chemin de pensée avec les neveux de René.
Alors, cette émission se situe dans la poursuite du thème engagé lors de l'émission précédente. Nous avions parlé de la question de l'articulation entre liberté et religion, notamment à travers la pensée de deux philosophes que sont Leibniz et Spinoza. Enfin, je devrais le dire dans l'autre sens, Spinoza et Leibniz, puisque Spinoza précède Leibniz. On peut rappeler aux auditeurs qu'il y a une série de quatre philosophes qui sont ensemble et qu'on appelle les cartésiens et qui parlent du rationnel, enfin, dont le thème central est la place de la raison. Donc ces quatre philosophes sont Descartes, Pascal, Spinoza et Leibniz. Et on disait que Schleiermacher, qui est un théologien du 19e siècle, essayait de concilier d'une certaine façon le point de vue de Leibniz et celui de Spinoza. Et nous avions dit que notre liberté n'étant jamais complète, celle-ci, ce sentiment de dépendance, pouvait, vis-à-vis des choses du monde, donner un sentiment de dépendance partielle, mais vis-à-vis de Dieu, donner un sentiment de dépendance absolue. On sent que quelque chose nous est donné dans le monde sans qu'on puisse le saisir de manière partielle. Et c'est partant de là, si j'ai bien compris Anthony Feneuil, que Schleiermacher développe une pensée de la religion. Alors, bon, l'idée première qui vient dans la religion, hein, Sylvain, c'est ce qu'on disait, c'est une série de règles, de dogmes, de carcans, c'est ça ?
Oui, un petit peu quand même. C'est-à-dire que la religion, forcément, invite déjà à la croyance. Donc, puis il y a des commandements, effectivement, il y a des règles.
Oui, donc, et ces règles visent au salut de l'âme.
Oui, en général, oui,
oui.
Les grandes religions.
Enfin, on peut dire dans toutes les religions, non ?
Oui, enfin, souvent, c'est pour... non, c'est vrai, je dis ça, mais effectivement, dans la plupart, enfin, même j'imagine toutes les religions, l'idée, c'est quand même
qu'il y a quelque chose à sauver, quoi.
On a un bénéfice à croire.
Oui.
Quelque
oui.
part, c'est ça, quoi.
Oui.
On a un
oui.
bénéfice à croire. Voilà. Et si on ne croit pas, ça peut être embêtant.
Ouais. Alors, on revient à cette question. Est-ce que les contraintes qui sont données par un cadre, est-ce que c'est une restriction de la liberté ? Ou est-ce que, on va dire, à la façon de la pensée moderne, par exemple, comme dans Rousseau, dans le contrat social, dit que les règles qu'on va se donner et qu'on va se forcer à respecter augmente notre liberté, est-ce que c'est la même chose dans le cadre de la foi et de la pensée ?
Alors, c'est sûr qu'il y a une ambiguïté, c'est clair, hein, il y a, notamment vis-à-vis de la question de la liberté, une ambiguïté de la religion. Hein. Donc, j'avais dans cette conférence dont vous parliez la dernière fois à Nancy, commencé, pour parler de Schleiermacher, à évoquer un chapitre de Dostoïevski qui est très connu, qui s'appelle « Le Grand Inquisiteur
oui. »,
dans lequel Dostoïevski réfléchit justement à cette ambiguïté de la religion relativement à la liberté, puisqu'il met en scène finalement une rencontre entre donc, ce grand inquisiteur à Séville au XVIe siècle, et puis un rêve ou un miracle, Jésus qui revient. Et le chapitre est consacré au discours du grand inquisiteur à Jésus. Et le grand inquisiteur reproche à Jésus d'avoir voulu rendre les humains libres. Voilà, donc il lui dit, moi, j'ai... Alors moi, étant le représentant finalement d'une religion instituée par excellence, hein, le catholicisme triomphant en Espagne au XVIe, moi, avec mes préceptes, avec mes règles, j'ai libéré... les humains de leur liberté, parce qu'au moins, ils n'ont plus à choisir. Ils n'ont plus à choisir, et donc, en fait, ils n'ont plus le poids le plus lourd qui leur pèse sur les épaules, celui d'avoir à prendre une décision, est-ce que je dois croire ou non ? Ben, vous n'avez plus à choisir, vous n'avez qu'à suivre mes préceptes. Donc, il y a toujours cette ambiguïté de la religion qui est à la fois libératrice, puisqu'elle oblige à un choix, finalement. La religion oblige à faire le choix vis-à-vis de la croyance, justement. La croyance, la question Dieu comme question, C'est une question à laquelle personne ne peut donner de réponse définitive. Et donc, ça ouvre quelque chose en nous qui oblige à la décision et donc à la plus grande liberté. Hein, c'est ce que dit Schleiermacher, en fait, avec le sentiment de dépendance absolue. Ça veut dire, quand je m'aperçois que je suis absolument dépendant de Dieu, je m'aperçois que je suis absolument dépendant de rien d'autre. C'est-à-dire, aucun être dans le monde ne me tient sous une dépendance complète. Je suis libre à l'égard de tout.
Mais d'où Dieu tire-t-il son être, justement? C'est ça la question fondamentale. Qu'est-ce qui fait le fond de ça? Et là, on est face à un vertige, quand même.
Non, c'est justement pas la question fondamentale. C'est justement la question à laquelle il ne faut pas répondre.
Oui. Mais justement, est-ce que c'est pas la question qui va opposer théologie et religion? Parce que pour la théologie, c'est pure folie que de chercher à répondre à ça, alors que la philosophie ne s'interdira jamais de poser la question. À savoir, même je voudrais même préciser ma pensée. La pensée occidentale européenne, justement à partir de Descartes, elle fait de l'être humain un sujet. Donc elle peut très bien se dire que Dieu, ce sentiment-là, est une représentation de quelque chose qui existe dans le sujet. Et elle ne va pas s'interdire ça. Et alors, pour le coup, se pose la question d'où cette divinité, cet être absolu tire-t-il son être? En fait, je ne sais pas si je suis très clair, mais il y a quelque chose qui...
Si, bien sûr. Justement, la pensée de Schleiermacher, elle consiste à dire que Dieu ne peut... Dieu, la manière dont il définit Dieu, c'est-à-dire comme ce à quoi se rapporte ce sentiment de dépendance absolue, ne peut justement pas être une représentation, puisque c'est la condition de toute représentation. Pour qu'il puisse... C'est-à-dire, pourquoi? Parce que dans une représentation, c'est effectivement le sujet qui déjà... C'est une manière pour le sujet d'exprimer sa liberté, oui. En fait, représentée, hein, parce que quand il représente de son point de vue à lui.
Oui.
Et c'est lui qui forge la représentation, même si, même dans la perception d'ailleurs, le sujet, c'est celui qui a un point de vue. Sauf que avoir un point de vue, l'origine de ce point de vue, elle fait toujours question. Et la prise de conscience de cette question, c'est ça le sentiment de dépendance absolue. Donc, c'est la condition de toute représentation, ce sentiment. Et donc, on ne peut pas poser la question de d'où vient cette représentation, puisqu'en fait, quand on pose cette question-là, on ne fait que reculer d'un cran et repousser le sentiment un cran derrière. Mais d'ailleurs, il y a la même chose chez Descartes. En fait, on pourrait dire, le sentiment de dépendance absolue, il joue le rôle que joue l'idée d'infini chez Descartes.
Oui, c'est ça. Oui. C'est-à-dire que c'est l'idée d'infini qui va le tirer du mauvais pas où il s'est mis en doutant de tout. Quoi.
C'est
ça.
Voilà, et surtout, c'est l'idée d'infini, comme dit Descartes, ça n'est pas la négation de l'idée de fini. Si c'était la négation de l'idée de fini, l'idée d'infini, c'est moi qui la créerais, parce que je vois des choses finies et je nie une caractéristique de ces choses. Non, elles sont finies, moi je pense à un être infini, c'est l'être qui dépasse toutes ces choses. Il dit mais non, c'est pas du tout comme ça. Pour avoir l'idée d'une chose finie, au contraire, les idées des choses finies sont des négations d'une idée première que j'ai avant toute autre et que je ne peux même pas comprendre, mais qui est première. Et du coup, là, on est vraiment sur quelque chose de très proche. Hein. Une idée première antécédente à toutes mes autres idées et dont toutes les autres idées ne sont qu'une négation.
Alors, moi, je voudrais revenir à Dostoïevski, au grand inquisiteur, parce que là, il y a quelque chose d'important et qui me travaille aussi personnellement. Donc la première question, elle est plus d'ordre historique, c'est comment on en arrive au grand inquisiteur. Voilà, bon, ça, je pense que toutes les religions monothéistes, du moins pour ce qu'on connaît, pour ne pas parler de choses qu'on ne connaît pas trop, arrivent à un moment donné à se fossiliser. Hein. Je pense notamment l'islam, à un moment, arrive à ne plus lire le texte autrement qu'avec des interprétations qui se sont surajoutées au fur du temps et qui se figent. Moi, j'aime bien un auteur qui s'appelle Youssef Sedik et qui est auteur d'un livre qui s'appelle « Nous n'avons jamais lu le Coran », par exemple. Mais une question peut-être, puisque vous enseignez en théologie, est-ce que judaïsme, christianisme, islam, leur point de divergence profond, ce n'est pas justement la façon dont on va représenter Dieu et la divinité en général? Est-ce que ça, c'est pas quelque chose d'extrêmement clivant, Moi, j'ai l'impression que ce n'est pas tant Dieu lui-même ou l'idée de Dieu lui-même qui crée des clivages, mais qu'est-ce qu'on s'autorise à en représenter ou pas ? Et comment on s'autorise à exprimer le sentiment de dépendance ?
Alors, sur le premier point, je pense qu'il faut se méfier des grandes théories trop générales pour expliquer le devenir historique de telle ou telle religion. Mais c'est vrai qu'il y a, c'est pas seulement les religions d'ailleurs, mais les institutions se fossilisent, on pourrait dire. C'est le mouvement de l'histoire, ça se fossilise. Donc ça se durcit.
Oui.
Alors dans les religions, il y a quelque chose de plus important. Si on prend, oui.
D'ailleurs, juste une petite remarque, parce que se durcit, se fossiliser, ça nous renvoie à Peggy, à la conversation qu'on avait eue. Hein.
Exactement. L'habitude.
Ou l'habitude.
L'habitude fait qu'on préfère. Et d'ailleurs, entre Peggy et Dostoevsky, il y a un lien très fort. Hein. C'est aussi le même moment hein, philosophique, on pourrait dire. Donc l'habitude fait qu'on préfère, et là Dostoevsky pointe quelque chose, parce que la liberté, c'est difficile à vivre. La liberté au sens avoir à recommencer tous les jours, à se reposer les questions, c'est difficile à vivre. C'est même invivable.
C'est même invivable. Voilà. Oh, bah oui, c'est même invivable.
Donc c'est, voilà. Mais alors c'est vrai que dans la religion, il y a quelque chose de plus, et là si on est Schleiermacherien, on peut le penser à partir de là, si le rôle de la religion, entre guillemets, c'est de travailler ce sentiment de dépendance. Mais il y a une tentation, c'est clair, dans le religieux, de justement écraser l'individu pour lui faire sentir la dépendance. Mais si on est Schleiermacherien aussi, il faut aller jusqu'au bout et dire qu'une religion qui fait ça, elle cesse d'être religieuse au bout d'un moment. Elle cesse d'être religieuse parce qu'elle fait oublier que son but, c'est pas de faire sentir une dépendance relative, et toutes les dépendances de type religieux sont relatives. Quand je dépends de telle loi religieuse, quand je dépends de telle église, quand je dépends de tel rite, ce sont des dépendances qui sont peut-être importantes pour moi, mais qui sont des dépendances relatives.
Oui.
Et ce dont les religions doivent faire prendre conscience, justement, pour Schleiermacher, c'est d'une dépendance absolue. Et donc, on est dans cette situation un peu paradoxale où les religions doivent à la fois faire prendre conscience de la dépendance et donc, quelque part, appuyer sur l'individu et le contraindre, mais en même temps s'auto-relativiser elle-même. Parce qu'elle doit faire comprendre que la vraie dépendance, la seule vraie dépendance, c'est la dépendance à l'égard de Dieu, et donc pas à l'égard de la religion. Il y a une tension à l'interne, des religions.
Chemin de pensée sur RCF.
J'ai une petite question là pour le coup qui est peut-être un peu naïve, hein, mais est-ce que la dépendance à l'égard de Dieu, quelque part, on la ressent pas naturellement ? Parce que justement, on sait bien, on le sent directement qu'on est dépendant à notre monde.
C'est le sentiment de finitude.
De finitude physique, peut-être même intellectuelle, n'importe. Mais on voit bien qu'on ressent dépendance.
Moi, je ne suis pas tout à fait de ton avis, parce qu'on peut dire, on peut concevoir le monde comme privé de transcendance.
Oui.
Je pense que, par exemple, si Anne Bonneau était là, c'est ce qu'elle dirait. Et se dire, bah, quand même, je peux fonder une morale, une éthique,
oui, bien sûr,
tout ça.
Oui, mais oui. Je parle le sentiment de dépendance. On voit bien qu'on est dépendant.
Mais on est dépendant des choses. Et je crois que ce qu'essaye de dire Anthony, c'est qu'il y a un sentiment de dépendant qui n'est pas vis-à-vis d'une chose, ou de quelque chose comme cette trousse que j'ai en face de moi, ce stylo, mais quelque chose qu'on ne peut pas percevoir, qu'on ne peut pas concevoir comme une chose, même une chose immatérielle. C'est-à-dire, et c'est pour ça que je demandais à Anthony, cette chose qu'on ne peut pas percevoir comme une chose, d'où tire-t-elle son être ? Et ça, j'ai l'impression que c'est une question que s'autorise la philosophie et que ne s'autorise pas la théologie.
Oui. Alors, deux points. Juste rebondir là-dessus, parce que c'est vrai que je n'avais pas répondu. C'est une question que s'autorise la philosophie, oui et non, parce qu'en fait, la philosophie au XXe siècle, elle a quand même beaucoup insisté sur le fait de ne pas penser Dieu comme un être, justement. Que la philosophie, quand elle avait elle-même pensé Dieu comme un être, comme une chose, elle s'était trompée, elle avait fait fausse route. Et elle avait fait ce que Heidegger appelle de l'ontothéologie, c'est-à-dire elle avait en fait pas pensé Dieu dans sa spécificité, mais elle l'avait pensé à partir d'une catégorie plus large, plus haute, qui était la catégorie d'être au sens de l'être de la chose.
Tout à fait. Et notamment, puisqu'on avait parlé de Leibniz, c'est Heidegger aussi qui dit qu'avec le principe de raison, Dieu est tombé dans la métaphysique.
C'est ça. Voilà, oui. Et puis l'autre point, c'est clair que En fait, il ne faut pas poser la question comme ça. Bien sûr, le sentiment de dépendance absolue, c'est-à-dire le fait que je ne suis pas seulement dépendant de mon chef au travail ou ma chef, de mon origine sociale, etc., etc. Mais que toutes ces dépendances-là dépendent elles-mêmes de quelque chose de plus originaire, qui est une dépendance totale, absolue, pure, dit Schleiermacher, mais qui en même temps me fait prendre conscience que de toutes ces dépendances-là, je suis seulement dépendant relativement, donc je peux toujours m'en libérer d'une certaine manière. Ce fait-là, ce sentiment, il peut être perçu n'importe quand, partout, ça c'est clair, puisque Schleiermacher dit tout. En fait, il compose toutes mes représentations. Mais les traditions religieuses, dans leur diversité, sont encore une fois des domaines dans lesquels il a été spécialement cultivé. Donc c'est des aides, des traditions historiques dans lesquelles, comme faudrait penser à des traditions artistiques, d'accord, dans lesquelles on a travaillé plutôt tel ou tel sentiment ou telle forme. Et c'est pour ça que ça rejoint aussi ce que tu disais, la question de, ben oui, l'islam, le christianisme, le judaïsme, sont trois manières de travailler différemment. Le sentiment initial est le même, sauf que ce sentiment n'existe lui-même jamais dans sa pureté. Il est toujours travaillé d'une certaine manière, donc par certaines représentations, par certaines...
Et ça, ça ouvre un terrain de, non pas de conciliation, parce qu'il ne faut pas être naïf, mais en tout cas de dialogue, de regroupement entre les différentes religions et dans chacune des religions, différentes façons de dialoguer.
Ça empêche de penser qu'on puisse arriver à une religion unique. Ce n'est pas possible. Y a pas dans, et ce n'est pas un objectif. Mais en même temps, ça empêche aussi de penser qui est une religion qui est en soi-même, enfin, en tant que religion, plus raison que les autres.
Mais justement, alors on va zapper la pause musicale parce que le temps nous est compté. Mais moi, je voudrais rebondir sur cette chose-là. Peut-être essayer de mettre un peu les pieds dans le plat sur cette question islam-christianisme qui est intéressante. Chacune des deux religions, et je crois que le judaïsme aussi, en fait, se présente comme détenant la vérité quand même. Et à ce sentiment de dépendance, et chacune, on va dire, des deux grands monothéismes dit en fait, moi je suis meilleur que l'autre parce que ce sentiment de dépendance, je le cultive mieux que l'autre. J'ai ce sentiment-là. Est-ce que tu ressens ça aussi ou est-ce que ça te... En tout cas, moi, connaissant le monde musulman, sachant que les musulmans reviennent à la tradition un peu plus pure monothéiste, plus proche du judaïsme et de la tradition de ne pas représenter les choses picturalement. Ça ne veut pas dire qu'en vérité, on ne tombe pas dans quelque chose qui va se dégrader par ailleurs, par exemple dans le langage, par exemple dans plein de choses. Hein, mais en tout cas, on se donne cette image-là. Pour le coup, on dit « Ah ben, je suis plus avancé, entre guillemets, que les autres. » Et je suppose qu'il y a la même chose du côté du christianisme, qui voit l'islam et le Coran comme des évangiles apocryphes. Alors, est-ce qu'il y a matière à ouvrir de nouveaux espaces dans cette course à dire « je suis meilleur que l'autre » ?
Alors, bien sûr, tout ça est vrai, chacun... Mais ça, j'ai envie de dire, c'est pas propre à la question religieuse, c'est une espèce de chauvinisme universellement partagé.
Tout à fait.
Mais en revanche, ce à quoi il faut être attentif, c'est que dans toutes ces traditions, justement, l'appel, toutes ces traditions appellent à quelque chose de plus grand qu'elles. Et il faut, dans toutes ces traditions, bien sûr, tout ce que tu dis est juste, hein, y a pas, je conteste pas du tout ces choses-là, mais n'empêche que, y compris dans cette volonté de s'auto-justifier, elle se fait toujours au nom d'un principe plus grand que celui de la tradition elle-même. Et donc, il faut toujours être attentif au fait que dans cet appel à un principe plus grand que la tradition elle-même, il y a une force critique aussi. C'est-à-dire, dans chaque tradition religieuse, cet appel à une vérité... aucune des traditions religieuses ne va dire « c'est nous qui avons la vérité » au sens où « c'est nous à la place de Dieu
». Oui.
C'est Dieu qui a la vérité. Et donc, ce renversement, il est dangereux. Je veux dire, l'appel à Dieu comme vérité, c'est toujours dangereux quelque part, mais c'est cela la force du texte d'Ossievski.
Voilà.
C'est qu'il y a une ambiguïté, il y a aussi une force critique dans cet appel. C'est-à-dire, Dieu est aussi toujours une force de mise en question. Et donc, finalement, la question, c'est pas est-ce que les religions font ceci ou font cela, c'est plutôt comment est-ce que on fait en sorte que cette ce principe critique à l'interne des religions l'emporte sur le principe chauvin.
Mmh. Oui, alors j'aimerais rebondir justement par rapport cette idée des règles instituées par les religions pour justement donc renforcer ce sentiment de dépendance. Alors déjà, une question que j'aurais, c'est une fois qu'on a éveillé ce sentiment chez les gens, qu'est-ce qu'on en fait ? Et aussi, c'est toujours pareil, la question de la liberté, elle est quand même, si on va à l'extrême, elle est un peu discutable, dans le sens où si Dieu nous a fait tels que nous sommes dans le monde, pourquoi on doit s'imposer des règles ? Pourquoi on s'impose des règles qui sont quelque part abstraites, enfin qui sont, comme tu le disais, relatives ? Est-ce que l'étant humain n'est pas justement de profiter de sa liberté totale, entre guillemets? Alors bien sûr, je me fais un peu l'avocat du diable, entre guillemets. Mais voilà, quel est finalement le but de tout ça, d'une certaine façon? Alors je ne dis pas qu'on peut avoir là une réponse d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'on fait de ce sentiment une fois qu'on l'a éveillé, et pourquoi on doit finalement, qu'est-ce qui fait l'intérêt de suivre des règles, de s'obliger à suivre des règles virtuelles, qu'est-ce que ça apporte?
Quel est le but justement? Ce sentiment, il nous fait réfléchir il nous fait relativiser nos propres buts. C'est-à-dire, ce qu'on doit comprendre, c'est nos propres buts sont eux toujours inscrits dans des contextes particuliers, sont toujours un mélange de dépendance et de liberté. Donc il n'y a pas de liberté pour nous ici. Pour nous, on n'a jamais de projet libre, entièrement libre. Parce que même quand on peut faire tout ce qu'on veut, ce qu'on veut faire dépend d'autre chose. Donc on est toujours encore une fois, là, on est face à un principe d'abord critique. Qui est de dire nos projets, nos buts doivent être toujours questionnés par rapport à un sentiment plus fondamental. Et peut-être même la structure de toute action comme projet. Peut-être c'est ça aussi qu'il faut questionner. Et puis, les règles, il y en a toutes sortes des règles. Il y a des règles qui sont nécessaires pour la vie en société, etc. Il y a des règles spécifiquement religieuses. Et là, même chose, l'essentiel, c'est quand même, quand les règles sont spécifiquement religieuses, leur but, si elles en ont un, c'est tout simplement ce que je disais tout à l'heure, la culture de ce sentiment. Mais il n'a pas d'autre, finalité, puisque au contraire, ce sentiment n'est pas pour autre chose, il vient modifier le monde de l'intérieur par sa simple existence.
La question peut-être qui était derrière la première question que je posais, c'est est-ce que ce sentiment d'avoir plus conscience de ce sentiment va nous permettre de nous améliorer, mais d'un point de vue presque métaphysique, quoi. Je sais pas, parce que voilà, c'est toujours pareil.
Mais surtout il va nous faire le sentiment, il va plutôt nous faire prendre conscience du fait que nos améliorations, ce que nous considérons comme des améliorations, doivent être remises dans un contexte plus large, qui est celui de le destin du monde lui-même en tant que tel, comme œuvre de Dieu.
Oui, c'est ça. Donc,
c'est pas la question de l'amélioration de l'humain, oui, sans doute.
Effectivement, dans un dessin plus grand, on a besoin, pour le coup, ça implique presque une morale, enfin de se donner une morale.
Et juste une dernière question, Anthony, par rapport à ces personnes qui disent, par exemple, notamment face à la catastrophe écologique, au détraquement, je ne sais pas si le mot existe, du monde à grande échelle, la religion a donné une place trop centrale à l'homme, qu'il faut se décentrer par rapport à ça. Qu'est-ce que vous en pensez en deux mots, parce que le temps...
Ça mériterait une autre émission, mais je pense que c'est un préjugé, ça, vraiment, sur l'anthropocentrisme des religions.
C'est ça.
Puisque justement, les religions, en tout cas monothéistes, elles sont bien plutôt théocentristes.
C'est ça.
C'est-à-dire que l'humain, c'est une partie du plan de Dieu, qui lui est le centre.
C'est plutôt... Oui,
et même à la limite, on pourrait aller jusqu'à dire, même notre monde, la fin de notre monde... Nous, on considère que c'est la fin du monde. C'est pas le cas. Si notre monde devait se terminer, ce qu'on appelle notre monde, l'univers s'en porterait pas nécessairement plus mal. C'est toujours cette même idée du principe critique, quoi, de retourner Alors, il y a des tendances anthropocentriques dans les religions, mais il y a dans le monothéisme, il y a surtout un principe théocentrique qui est un principe de décentrement. Donc, au contraire, considérer l'humain autrement que du point de vue de l'humain.
C'est-à-dire, et reconnaître qu'il y a un autre que l'être humain.
Exactement, que l'être humain, c'est d'abord un animal parmi d'autres, avec des spécificités, mais un animal parmi d'autres, dans une nature qui elle-même est partie d'un univers bien plus vaste, et que tout ça dépend de quelque chose qui dépasse entièrement tous nos petits projets.
Merci beaucoup. Sur cette excellente conclusion, on donne rendez-vous à nos auditeurs dans 2 semaines pour la prochaine émission des Neveux de René. J'espère que vous nous ferez le plaisir d'être là parmi nous. Et puis, merci à Antoine pour la technique.